Le journal, Thomas Cluzel, bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Quand la crise entre Ankara d'un côté et Damas de l'autre se fait toujours plus prégnante, ce matin, le président turc Recep Tayyip Erdogan a assuré que son pays ne ferait pas le moindre pas en arrière à Idlib, cette région du nord-ouest de la Syrie où ses troupes font face à celle du régime de Bachar el-Assad soutenu par la Russie.
Dans votre journal, Thomas Cluzel, nous irons également en Allemagne où la Cour constitutionnelle a censuré ce matin une loi interdisant l'assistance au suicide par des médecins ou associations.
Oui, une décision cruciale dans un pays où l'Église catholique reste extrêmement influente.
Il est le premier Français victime du coronavirus.
Un homme de 60 ans est décédé en effet la nuit dernière après avoir été infecté. Au total, 5 cas ont été recensés depuis hier. Quant aux chefs de parti et présidents de groupes parlementaires, ils ont été conviés demain à Matignon. Et puis pour évoquer les conséquences économiques cette fois-ci de cette épidémie, invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Patrick Martin, président délégué du MEDEF. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Nous allons parler art et politique au lendemain de la diffusion de vidéos intimes de l'ancien candidat à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, par l'artiste russe Piotr Pavlensky, qui se revendique donc de cette action artistique et politique. De quelle tradition, de quel mouvement s'inspire-t-il ? On parlera avec notre invité Paul Ardenne dans la seconde partie de la grande table.
Merci et à tout à l'heure. C'est l'une des pires catastrophes humanitaires de la crise syrienne qui, en près d'une décennie, en a pourtant déjà provoqué d'innombrables. Voilà plus de 2 mois que les forces du régime syrien, soutenues par l'aviation russe, ont lancé une offensive d'envergure dans la province d'Idlib, tuant plus de 400 civils et provoquant l'exode le plus massif en une si courte période depuis le début de la guerre en 2011, soit près d'un million de déplacés. Une stratégie de reconquête militaire du pays à n'importe quel prix et au mépris du droit international humanitaire, dénoncé d'ailleurs aujourd'hui dans une tribune publiée par le journal Le Monde. 14 ministres des Affaires étrangères de pays membres de l'UE y appellent expressément la Russie à poursuivre les négociations avec la Turquie afin d'aboutir à une désescalade donc à Idlib et de contribuer ainsi à une solution politique. Aurélien Colli, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes-vous actuellement en Turquie à Rayanli, ville voisine donc de la Syrie, où la frontière ce matin, je crois, Aurélien, reste fermée?
Oui, frontière fermée par un mur construit en 2015 par la Turquie pour se protéger d'infiltration de Daesh et d'un nouvel afflux de réfugiés. Un mur qu'on ne franchit pas juste derrière le drame humanitaire d'Idlib qui se joue derrière ce mur, derrière les collines à travers lesquelles il serpente. 1 500 000 civils dans des conditions épouvantables selon les témoignages recueillis ici de médecins, d'ONG qui peuvent traverser. Pas d'eau, pas de nourriture, pas d'abri. Alors que la nuit, les températures descendent au-dessous de zéro, les plus vulnérables. Ce sont les personnes âgées, les enfants, les bébés, les civils blessés aussi par des bombardements du régime syrien et de son allié russe qui n'ont pas cessé, même s'ils ont baissé en intensité. Hier encore, plusieurs écoles abritant des déplacés ont été prises pour cible. Une catastrophe humanitaire dans l'indifférence générale, déplorait un médecin que j'ai rencontré hier et qui revenait d'Idlib.
Alors, côté turc, Aurélien, cette fois-ci donc dans cette ville de Rayanli, comment voit-on aujourd'hui la situation ?
Alors à Rayanli, Thomas, la moitié de la population en fait est désormais constituée de réfugiés syriens qui sont arrivés au début de la guerre civile, avant la construction de ce mur. Beaucoup ont encore des proches de l'autre côté de la frontière, dans cette enclave d'Idlib où il n'y a plus que l'armée turque pour les protéger. Pour ces Syriens en contact avec leurs proches, la Turquie doit ouvrir sa frontière. Mais pas question pour les autorités turques, pas question aussi, il faut le dire, pour une partie de la population turque qui estime qu'avec déjà 4 millions de réfugiés syriens sur son territoire, la Turquie ne peut plus en accueillir, elle qui traverse en plus une crise économique, qui envoie déjà quotidiennement de l'aide humanitaire à Idlib et qui a déployé des troupes pour stopper l'offensive de l'armée syrienne. Ce que les Turcs demandent, c'est que l'Europe, les États-Unis, l'ONU mettent vraiment la pression sur l'allié russe du régime syrien pour sanctuariser une bande frontalière en territoire syrien où ces populations civiles pourraient recevoir la protection et l'aide humanitaire dont elles ont besoin.
Merci Aurélien Colli, en direct donc de Rayanli en Turquie, ville frontière avec la Syrie. Plus de 4 mois après les élections, la Tunisie pourrait enfin se doter d'un nouveau gouvernement. L'Assemblée en décidera aujourd'hui lors d'un vote de confiance. Un accord passé la semaine dernière avec le parti islamiste Ennahda devrait a priori permettre de sortir enfin de l'impasse. Depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika et sous l'impulsion du haut commandement militaire pilier du régime, la justice algérienne a déjà lancé plusieurs enquêtes visant à la fois d'anciens hauts dirigeants politiques et de puissants oligarques. Il faut dire que les quelques 20 années précédentes ont été marquées par nombre de scandales de corruption. Alors ces enquêtes répondent évidemment au double objectif, à la fois d'offrir des têtes, symboles de ces années Bouteflika à la contestation, tout en réglant des comptes au sein de l'entourage du président déchu dans le cadre de luttes de clans au sommet du régime. Quoi qu'il en soit, deux anciens premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, doivent donc être entendus aujourd'hui à la cour d'appel d'Alger, et ce dans le cadre d'un procès en appel du secteur de l'automobile. Les explications de notre correspondante Leïla Berato.
En première instance, ils avaient été condamnés à des peines de prison ferme allant de 3 à 15 ans de réclusion. Ce mercredi, ces anciens hauts responsables algériens retournent à la barre. Parmi eux, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, ancien premier ministre et proche d'Abdelaziz Bouteflika, mais aussi des hommes d'affaires et d'autres anciens ministres. L'affaire concerne le secteur du montage automobile, secteur industriel développé lors du quatrième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, secteur que la justice considère avoir été le théâtre de malversations. Mais ces anciens hauts responsables sont également accusés du financement occulte de la campagne présidentielle d'avril dernier, une élection où Abdelaziz Bouteflika devait se porter candidat avant de renoncer, poussé par la rue et par l'armée. Un an après le début du mouvement de protestation et malgré l'arrestation d'au moins une trentaine d'anciens responsables nationaux et d'autres responsables locaux, les Algériens commencent à peine à découvrir les rouages du système de corruption institué. La presse révélait ainsi au mois de janvier que l'ancien patron des patrons, Ali Haddad, avait bénéficié d'environ 7 millions d'euros de prêts bancaires. Cette semaine, une nouvelle affaire a été ouverte par la justice pour corruption et trafic d'influence. Elle met en cause l'ancien patron, mais aussi désormais l'ancien chef du protocole d'Abdelaziz Bouteflika.
Entre la magnificence de la visite d'État de Donald Trump et le chaos des quartiers populaires à majorité musulmane à New Delhi, théâtre de violence, le contraste ne pouvait être plus saisissant. Voilà trois jours que des heurts entre partisans et opposants d'une loi controversée sur la citoyenneté, jugée discriminatoire envers les musulmans par ses détracteurs, ont dégénéré en affrontements communautaires entre hindous et musulmans. Le dernier bilan officiel fait état de 20 morts. Quant à la première visite en Inde du président américain, ce sera achevé comme prévu et en dépit des accolades sans avancée concrète. Tout juste, l'Inde a-t-elle conclu un contrat de vente de 30 hélicoptères militaires, manière pour New Delhi de camper dans son rôle d'allié stratégique, mais aussi et surtout de contrepoids à l'influence de la Chine dans la région. Même si tous concourent avec le même objectif, empêcher la réélection de Donald Trump, les échanges entre candidats à l'investiture démocrate n'en restent pas moins acerbes. Dernier exemple en date hier, celui qui fait aujourd'hui figure de grandissime favori, Bernie Sanders, est tombé sous le feu de ses rivaux, qui l'ont assailli sur plusieurs fronts. Un débat particulièrement animé donc, et à la hauteur en réalité des enjeux, puisque dans trois jours se tiendra un vote crucial en Caroline du Sud, où plusieurs candidats joueront probablement leur dernière chance de rester en lice. Enfin, elle s'est d'ores et déjà engagée à soutenir Bernie Sanders si celui-ci remportait l'investiture. Elle, c'est Hillary Clinton, candidate malheureuse de la dernière présidentielle, en visite hier à Berlin pour la projection d'un documentaire retraçant sa carrière dans le cadre de la Berlinale. Et voilà qui nous conduit donc directement en Allemagne, où la Cour constitutionnelle devait rendre aujourd'hui une décision sur une question par nature délicate, tant dans son évaluation morale que politique, mais davantage sans doute encore dans un pays où l'Église catholique reste, qui plus est, extrêmement influente. Les juges étaient appelés à se prononcer sur le suicide assisté, étant entendu que depuis 4 ans maintenant, plusieurs signaux contradictoires avaient été envoyés sur ce sujet, rendant totalement illisible ce qui était permis et ce qui ne l'était pas. En fin de compte, l'interdiction du suicide assisté organisé a été jugée inconstitutionnelle. C'est une correspondance à Berlin signée Ludovic Piétenu.
Jusqu'à présent, aucun professionnel ne pouvait aider une personne à mourir. Cette décision des députés du Bundestag, qui date de 2015, était contestée par des associations allemandes et suisses d'aide au suicide, mais aussi des médecins et des patients. Depuis 4 ans donc, dans l'attente de cette décision des juges constitutionnels de Karlsruhe, la plus haute juridiction du pays, ces professionnels étaient passibles de 3 ans de prison, mais n'étaient pas punis en revanche des parents ou des proches. Cette interdiction est désormais jugée contraire à la constitution allemande, qui accorde un droit à l'autodétermination à mourir. Cela inclut, disent les juges, la liberté de s'ôter la vie et de profiter de ces offres de tiers. Des professionnels, certains dans le pays, jugeaient ce genre de pratique trop commerciale et socialement inacceptable. Mais pour un malade incurable, les juges ont estimé qu'on pouvait regretter sa décision, tout essayer pour le faire changer d'avis, mais aussi, in fine, accepter sa libre décision.
Alors que l'Organisation mondiale de la santé ne se résout toujours pas à parler de pandémie à propos de la propagation de l'épidémie de coronavirus, le nombre de pays touchés ne cesse de s'étendre et le nombre de victimes de s'accroître. Ce matin, la Grèce a annoncé un premier cas de contamination. De son côté, la République islamique d'Iran a annoncé 4 nouveaux décès portant le bilan officiel à 19 morts, soit le chiffre le plus élevé hors de Chine. Et puis, en France, cette fois-ci, 3 nouveaux cas dont un mortel ont été diagnostiqués. Nous allons y revenir dans un instant. Par ailleurs, la multiplication des contaminations à nos frontières, notamment en Italie, soulève de nombreuses questions, tant sur la nature de la menace que sur les précautions à prendre. Et puis, autre source d'inquiétude, le profil donc des malades qui se sont déclarés ces derniers jours et qui n'ont aucun lien direct avec la Chine, foyer originel de l'épidémie. Mais pour commencer, direction justement la Chine, là-bas le coronavirus a contaminé plus de 78 000 personnes et en a tué plus de 2700. Pour autant, le nombre de décès par jour est lui en baisse, de même que les nouveaux cas confirmés de contamination. Et c'est ainsi que plusieurs provinces chinoises annoncent aujourd'hui qu'elles vont revoir à la baisse leurs mesures d'urgence. Illustration à Pékin où la vie reprend petit à petit un cours normal. Quelques commerces rouvrent timidement avec toutefois des précautions importantes, comme en témoigne donc ce reportage de notre correspondante Dominique André dans un salon de coiffure de la capitale.
La coiffeuse ouvre la porte du salon équipée de son masque sur le visage et de gants de protection. Je distribue des tickets aux clients qui attendent de dehors sur le trottoir, dit-elle. Quand un client entre, on prend sa température, on enregistre son nom et quand il repartira, je désinfecterai tout le matériel et son fauteuil. Ce sont donc les conditions pour que ce petit salon d'un quartier traditionnel du centre de Pékin ait eu l'autorisation de rouvrir. Madame Wang, 62 ans, est soulagée de retrouver son salon de coiffure et de voir surtout que son quartier revit un peu.
Il y a seulement 3 clients, 2 hommes et une femme à l'intérieur. Si je ne change pas ma coiffure, je n'ai pas bonne mine et je suis de mauvaise humeur. Il faut sortir de chez soi. On sait bien qu'il faut éviter les zones où il y a beaucoup de monde. Mais les services qui concernent la vie quotidienne refonctionnent.
Quelques jours après les consignes de Xi Jinping pour une reprise du travail, tout en poursuivant le combat contre l'épidémie, on observe quelques frémissements dans la capitale. Dans les services, les banques pourront ouvrir en moyenne 2 jours par semaine. Demain, le gouvernement chinois organise aussi une visite pour la presse pour montrer la reprise du travail dans 2 usines près de la capitale. Beaucoup de Pékinois espèrent reprendre leur travail la semaine prochaine.
Un reportage à Pékin signé Dominique André. Alors je l'évoquais tout à l'heure, en France, donc un homme de 60 ans contaminé par le nouveau coronavirus est mort la nuit dernière à l'hôpital parisien de la Salpêtrière. 2 autres patients sont toujours hospitalisés, dont l'un notamment dans un état clinique grave. Damien Mestre, bonjour.
Bonjour.
Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose en réalité de ce cas mortel. On ne sait pas notamment où il a pu être infecté. Damien, une enquête en revanche est actuellement en cours.
Oui, tout ce que l'on sait, c'est que c'est un enseignant de l'Oise d'un collège de Crépy en Valois. On l'a appris il y a quelques minutes. Il est décédé cette nuit à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il avait été admis hier en urgence dans un état gravissime, a précisé le ministère de la Santé. Il a donc été détecté positif au coronavirus avant de décéder quelques heures plus tard. Un point est prévu à 14h avec le préfet de l'Oise, mais des questions se pose. L'homme a-t-il été en contact avec des élèves, par exemple? C'est actuellement les vacances scolaires dans l'Oise, mais peut-être avait-il déjà déclaré des symptômes. Des questions se posent aussi sur le lieu où il a pu être infecté. D'après les premières infos dont nous disposons, cet homme de 60 ans pourrait ne pas avoir voyagé dans une zone touchée par le coronavirus. Du côté du ministère de la Santé, une enquête est ouverte en urgence. On attend les premières informations dans la soirée. Ce cas mortel s'ajoute au nouveau cas annoncé hier soir, puis ce matin, c'est en tout 4 nouvelles personnes qui sont infectées par le coronavirus en France. Et parmi ces 4 personnes, au moins 2 revenaient d'Italie, nouveau foyer de l'épidémie. Il y a un homme de 36 ans hospitalisé à Strasbourg et un autre d'une 60aine d'années en région Auvergne-Rhône-Alpes. Tous deux avaient séjourné récemment dans la région de Milan. C'est cohérent avec l'évolution de l'épidémie qui se déplace désormais en dehors des frontières de la Chine. Mais jusqu'ici, l'état de santé de ces deux hommes n'est pas préoccupant, a indiqué le ministère. En tout, depuis le début de l'épidémie, 17 personnes ont été testées positives sur le territoire français. 11 ont été déclarées guéries et 2 sont donc décédées.
Merci Damien Mestre. Alors tandis que le nouveau coronavirus gagne donc du terrain, les risques de propagation de l'épidémie sur l'ensemble de la planète ont vite fait de transformer ce nouveau coronavirus en un enjeu politique majeur, en particulier en remettant les frontières à l'épreuve. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour Thomas.
C'est assez flagrant, notamment en France où cette épidémie donc relance le débat sur les frontières.
Et c'est le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, qui a été le premier à s'émouvoir de la gestion de la crise le week-end dernier en raison de la proximité de son département avec le nord de l'Italie. Et a demandé l'activation d'un plan d'urgence sous gouvernement, d'où l'idée d'un contrôle aux frontières pour organiser la traçabilité de ceux qui entrent sur le territoire. Idée reprise aussitôt par Marine Le Pen, qui voit là une occasion de développer son argumentaire pour une maîtrise des frontières avec un élément de langage bien rodé. La frontière est un élément de protection des populations, quelle que soit la situation. La polémique a également pris un caractère local, à Paris, où l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, devenue candidate au municipal, a critiqué le manque de réactivité de la maire Anne Hidalgo. Et puis à Lyon, ce sont en ce moment des élus de l'agglomération qui s'inquiètent du déplacement aujourd'hui de 3000 supporters italiens pour un match de Ligue des Champions, alors que la Juventus Turin jouera dimanche prochain à huis clos pour le compte du championnat italien. Décision incohérente, a jugé l'ancienne ministre socialiste Ségolène Royal. Alors dans ce climat de suspicion, le gouvernement tente d'apporter des réponses aux élus inquiets, maires, présidents des co-conseils départementaux et régionaux. Et comme il s'y était engagé à l'Assemblée, le Premier ministre Édouard Philippe fera un point d'étape demain à l'hôtel Matignon avec les chefs des partis politiques et présidents de groupes parlementaires à l'Assemblée et au Sénat. On le voit, ce genre de crise sanitaire peut très vite viré au cauchemar pour tout chef de gouvernement et ministre de la Santé, qui auront beau faire œuvre de pédagogie en s'appuyant sur un réseau d'experts pour valider leurs décisions, ils ne pourront empêcher les rumeurs et réactions irrationnelles propagées sur les réseaux sociaux.
Merci Pierre Neveu. Et pour continuer donc d'évoquer cette épidémie, et en l'occurrence ses conséquences sur l'économie, invité de la rédaction aujourd'hui, Patrick Martin, président délégué du MEDEF. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Anne-Laure Jumet. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Première question, monsieur Martin, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a estimé à 0,1 point de croissance l'impact économique de ce coronavirus. Est-ce que ça vous semble réaliste ?
Ça nous semble prudent. Je veux dire par là que ça sera probablement pire que ce qu'a estimé Bruno Le Maire. Ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs de réunir les partenaires sociaux, les entreprises, pour travailler à des mesures à la fois d'accompagnement des entreprises qui sont d'ores et déjà touchées par ce phénomène, et puis pour essayer d'imaginer des dispositifs pour prévenir la propagation de cette épidémie. Bien sûr, sur le plan sanitaire, c'est pas directement son champ, mais surtout sur le plan économique, avec des vraies conséquences d'ores et déjà.
Ces mesures, justement, elles ont été annoncées vendredi à Bercy. Peu ou prou une reconduction des mesures déjà décidées pendant la crise des Gilets jaunes. Est-ce que ça vous semble à la hauteur des enjeux ?
Oui.
Est-ce que vous réclamez plus ?
Enfin, si vous voulez, il n'en sait pas plus que nous et malheureusement que beaucoup d'autres sur l'ampleur que va prendre cette crise. Pour ce qui nous concerne, nous réunissons régulièrement nos adhérents. On l'a encore fait ce matin avec d'ailleurs des représentants de l'État, de l'Institut Pasteur. Et on a donné des conseils, pas des consignes à nos adhérents, que ce soit les entreprises implantées en Chine ou dans les pays qui sont gravement touchés à ce jour, ou pour les entreprises françaises, considérant que la France commence à être touchée, on ne sait pas jusqu'où ça ira. Donc tout le monde est sur le pont.
De quelles informations disposez-vous précisément aujourd'hui sur la reprise de production en Chine ? En tout cas, une reprise de production qui peut concerner ces entreprises françaises.
Alors, il y a une reprise de production assez significative. On le sait par des témoignages de grands groupes, mais également de PME et d'ETI implantés là-bas. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une très très lourde perturbation dans les chaînes d'approvisionnement et qu'il y a des effets en chaîne qui seront difficiles, en tout cas longs à corriger avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Dans un climat d'incertitude, et on sait que l'incertitude, ouais, c'est mauvais pour les affaires. Bruno Le Maire estime plus largement qu'il faut tirer aujourd'hui les conséquences de long terme du coronavirus en relocalisant certaines activités stratégiques en France ou en Europe. C'est une question de souveraineté, dit-il. Est-ce que c'est possible ? Il y a d'abord des savoir-faire qui se sont perdus, je pense notamment au textile. Il y a aussi des questions de coût de main-d'œuvre. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense qu'il a raison, mais qu'il y a une bonne partie de ces activités qui ont été transférées d'une manière générale en Asie, pas seulement en Chine, sous la pression des tarifs. Et c'est particulièrement flagrant pour la pharmacie. Les principes actifs sont essentiellement produits dorénavant en Chine, mais c'est notamment sous la pression du prix du médicament et du développement des médicaments génériques. Il ne s'agit en aucun cas de polémiquer dans les circonstances graves que l'on traverse. Oui, il faudra rapatrier un certain nombre de productions, avec d'ailleurs des effets positifs.
Mais est-ce que c'est possible ?
Oui, c'est possible, mais ça prendra du temps. Ben, si vous voulez, une usine, a fortiori dans les hautes technologies, vous la déplacez pas en quelques semaines ou quelques mois. C'est l'affaire probablement d'un ou deux ans. Mais oui, il faudra le faire avec accessoirement un effet positif sur le bilan carbone de l'industrie française.
Dans quel secteur ça vous semble le plus probable, possible à moyen terme?
Alors, typiquement chimie, pharmacie, probablement dans l'automobile, même si beaucoup des entreprises françaises qui sont installées en Chine l'ont fait pour servir des constructeurs chinois, en tout cas implantés en Chine. Oui, on va passer en revue en fait tous les secteurs d'activité pour lesquels ça paraîtrait judicieux pour des raisons de souveraineté, de sécurité, mais également d'efficacité économique.
Patrick Martin, un mot avant de conclure de la réforme des retraites. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, estime qu'il y a une double obstruction, celle au Parlement et celle de la vôtre, hein, celle du MEDEF, puisque, dit-il, vous bloquez sur la pénibilité le cheval de bataille du premier syndicat français. Que répondez-vous à Laurent Berger?
C'est cocasse de sa part de nous assimiler à la France insoumise, ça nous avait échappé jusque-là. Mais plus sérieusement, c'est un peu fort de café, si vous voulez, alors que le MEDEF, n'ayant pas demandé cette réforme, se prête à la discussion, se prête notamment à la conférence de financement qui a été demandée par Laurent Berger lui-même, et à laquelle finalement il ne participe pas de manière active, puisqu'il ne veut pas sortir le moindre chiffre. Donc dire que le MEDEF fait de l'obstruction, c'est une contre-vérité.
Vous dites que c'est une conférence de financement où on ne produit aucun chiffre?
Aucun. Aucun, mais si vous voulez, à partir du moment où la CFDT, qui à nouveau a demandé cette réforme et cette conférence de financement, considère qu'il n'y a pas de sujet d'équilibre financier, on ne voit pas très bien pourquoi elle a demandé cette conférence de financement. En tout cas, nous sommes contributeurs, nous souhaitons que cette réforme aboutisse, je dirais, à ce stade le moins mal possible. Et donc, c'est nous prêter des intentions que nous n'avons pas que de prétendre ce que dit Monsieur Berger.
Cette conférence de financement qui doit aboutir à des propositions fin avril, vous pensez qu'elle ira jusqu'au bout ou est-ce qu'elle sera finalement avortée avant même cette échéance?
Écoutez, à partir du moment où chacun n'abat pas ses cartes, et le MEDEF a abattu ses cartes, c'est très difficile de discuter, ça devient une partie de poker menteur et je pense que c'est pas à la hauteur des enjeux.
On a la CGTFO qui devra quitter bientôt peut-être la table des négociations.
Oui, alors la CGT, on n'en sait trop rien à ce stade. Mais aussi curieux que ça puisse paraître, nous partageons certaines analyses avec FO notamment, mais peut-être d'autres syndicats, sur le sujet non pas du financement, mais de la gouvernance. Mmh. Parce que là aussi, il y a une grosse zone d'ombre. Il n'est pas question pour les partenaires sociaux, en tout cas ceux que je viens de citer, les organisations patronales, le MEDEF en tête, de s'engager dans une gouvernance qui serait une fiction.
Merci Patrick Martin, président délégué, je le rappelle, du MEDEF, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Anne-Laure Jumet. PSA a enregistré un bénéfice net record l'an dernier en hausse de 13,2% à 3,2 milliards d'euros. Et c'est ainsi que le constructeur automobile a décidé d'annoncer ce matin l'octroi d'une prime d'intéressement de plus de 4 000 euros à ses salariés gagnant moins de deux fois le SMIC. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors avant de savoir dans quelle mesure il faut se réjouir ou non d'une telle annonce s'agissant de ce bénéfice enregistré l'an dernier, Hakim, il tranche avec la baisse du marché automobile mondial.
Oui, les résultats sont très bons par rapport à son principal Renault, concurrent Renault qui lui, pour la première fois, était dans le rouge. Des bons résultats qui s'expliquent notamment par la vente toujours en hausse des SUV, ces 4x4 urbains, en France comme en Europe, mais aussi par les efforts de compétitivité réalisés ces dernières années. Carlos Tabarès, le PDG de PSA.
On a battu un nouveau record de rentabilité, que notre situation financière est on ne peut plus robuste. Et ceci signifie que tous les efforts que nous avons réalisés au cours de ces dernières années pour baisser le point mort de l'entreprise nous mettent dans une position de grande robustesse face aux aléas et face à l'ensemble des défis et des difficultés auxquels nous pourrions être confrontés.
Alors si la prime de 4100 euros est appréciée par une partie des syndicats, elle ne suffira pas à combler les pertes de salaire liées à la réforme des retraites selon Jean-Pierre Mercier, délégué CGT chez PSA.
C'est une opération blanche pour le financement de nos retraites. C'est ça qu'on dénonce et c'est uniquement par l'augmentation du salaire de base qu'on pourra financer nos retraites et se protéger des mauvais coups d'Emmanuel Macron. Donc pour nous, ce qu'il faut réellement, c'est augmenter les salaires, augmenter les salaires, augmenter les salaires.
De son côté, la direction de PSA rappelle avoir augmenté les salaires de 1,4% et préfère jouer la carte de la prudence car elle table sur une baisse du marché auto en Europe de 3%. L'Europe, dont PSA reste très dépendant aujourd'hui, avant sa fusion effective avec Fiat Chrysler qui va lui ouvrir de nouvelles opportunités en Amérique du Nord et du Sud.
Merci Hakim Kasmi. Parce qu'en près de 20 ans, il n'est jamais que le sixième Premier ministre à se retrouver ainsi sur le banc des accusés. La photo n'a a priori rien de très original et pourtant parce que l'homme qui encourt désormais une peine correctionnelle de 10 ans semble être aussi le mieux placé pour décrocher en son temps un mandat présidentiel de 5 ans. C'est peu de dire que le procès de François Fillon qui doit s'ouvrir définitivement aujourd'hui n'en reste pas moins très attendu. La justice est appelée à se prononcer dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif de son épouse Pénélope. Le procès est prévu pour durer jusqu'au 11 mars. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, dominé par les précipitations sur l'ensemble du territoire, mais aussi des averses neigeuses à très basse altitude, voire en plaine. Le vent d'ouest à nord-ouest sera également sensible sur l'ensemble des régions. Enfin, cette atmosphère plus hivernale se ressentira jusque dans les températures comprises généralement entre 4 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.